Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Par les temps qui courent, tous les soirs, une conversation qui dure une heure avec les artistes. Ce soir, Hubert Collat.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du bouta, pépé, pépé.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Hubert Collat.
Dans une relative obscurité, sous la coupole blanche du planétarium du Théâtre des Amandiers à Nanterre, nous regardons deux hommes vivre dans deux textes. Le premier texte date de l'été 2017, quelques mois avant la mort de son auteur, Mathieu Riboulet. Il est question de ce que l'on installe quelque part, de comment l'on constate que l'on est ici et pas ailleurs, de comment on fait tenir le monde dans notre tête et nos langages, de notre manière vivante d'être toujours au bord d'une présence. Le second texte est paru en 2015, c'est un dimanche à Cologne et c'est un labyrinthe de corps et de sensations dans un sauna gay en Allemagne, une suspension du discours pour une plongée vers l'informulé, le sexe, le désir, les corps et la multiplicité des directions dans laquelle peut nous mener notre corps. Frédéric Leingens et Thierry Reynaud sont côte à côte, exactement comme les textes que vous rapprochez, Hubert Collat, un montage littéraire à la lisière des corps, pour presque reprendre le titre, d'un ouvrage de Mathieu Riboulet. Bonsoir Hubert Collat.
Bonsoir Marie.
Nous campons sur les rives, c'est le titre d'un texte de Mathieu Riboulet, c'est aussi le titre de cette création nouvelle. Elle sera présentée à Nanterre, au Théâtre des Amandiers du 6 au 9 février, à l'automne, au Théâtre National de la Criée à Marseille et à Montréal et Ottawa. Pour nos auditeurs canadiens et nos auditrices canadiennes, on commence justement avec la voix de Mathieu Riboulet.
Moi, j'ai toujours eu le sentiment, ce qui est un paradoxe à dire justement oralement dans le cadre d'un entretien, que j'étais à chaque fois que je devais prendre la parole, mais y compris dans une conversation amicale d'ailleurs, dans la plus grande confusion, incapable de réellement parvenir à formuler correctement les choses que je ressens ou les idées qui me traversent ou les analyses que je peut faire, avec des guillemets. Le seul endroit pour moi où quelque chose d'un petit peu cohérent, me semble-t-il, peut se constituer, c'est vraiment l'endroit de l'écriture. C'est le seul endroit où la pensée peut se formuler d'une manière à peu près fidèle à ce que j'ai dans la tête, quoi. Hors de l'écriture, encore une fois, j'ai toujours le sentiment que c'est la confusion. Dans l'écriture, non seulement je formule les pensées que je peux avoir, mais j'ai le sentiment de comprendre les choses. Alors que le monde m'est globalement opaque à l'oral, et il s'éclaire un tout petit peu à l'écrit.
C'est la voix de Mathieu Riboulet, donc, dans une archive hors champ, au micro de Laure Adler en 2015 sur France Culture. Mathieu Riboulet qui dit que le texte est le lieu de la compréhension, le lieu de la lumière, quand le reste est une sorte de rapport d'opacité avec le monde et avec le réel. D'une part, qu'est-ce que ça fait, Hubert Collat, d'entendre la voix de Mathieu Riboulet?
C'est tout de suite, c'est plutôt de l'émotion. En fait, de l'entendre et puis, je l'avais pas réécouté en fait depuis qu'on a monté ces deux textes et du coup de le réentendre et de retraverser par moment avec les yeux, je dirais presque, son écriture et de me rappeler de lui puisqu'on l'avait invité à Marseille plusieurs fois à faire des lectures et du coup c'est émouvant. Et après, ce qu'il raconte sur ce qu'il dit là par rapport à son incapacité de dire par l'oralité en fait le sens que son écrit permet de dire, c'est une chose aussi que je trouve très belle, parce que Je crois que quand il écrit par moments, et notamment quand il parle peut-être aussi de politique, c'est jamais direct, c'est jamais frontal. C'est toujours par, on va dire presque par copeaux, par comme ça, par... par transmission indirecte. Et c'est ce que je trouve, moi, souvent pertinent dans son écriture, c'est que le chemin que l'on a avec, il nous appartient aussi, on le partage avec lui, et c'est un espace qu'il nous laisse dans son écriture.
Je pense que vous parlez là un texte qui s'appelle « Entre les deux, il n'y a rien », ouais, qui est aussi paru chez Verdier, qui est un texte qui est éminemment politique, mais en effet, où... ça a rien de, ni d'un tract, ni d'un manifeste. C'est très, très entremêlé d'une part avec, avec sa vie, avec toujours des choses extrêmement personnelles, sensorielles, singulières. Et au milieu de ça, on pourrait dire, ou avec ça et uniquement avec ça, la politique. Qu'est-ce qui fait que vous décidez de monter ces textes-là? Et quel est votre rapport, Hubert Collat, avec ce Mathieu Riboulet et sa littérature?
J'ai jamais pensé tout de suite monter un texte de Mathieu Riboulet. Je pense que c'est à la fois le chemin de la vie qui fait qu'à un moment donné il disparaît et que d'un seul coup bon nombre d'amis avaient vu que je l'avais invité à Marseille parce que j'aime beaucoup sa littérature, enfin j'aime beaucoup son écriture, enfin la façon dont il sculpte pratiquement sa littérature, et que d'un seul coup, chemin faisant, plusieurs fois des amis disaient: tu devrais monter un texte de Mathieu Riboulet, il y a quelque chose qui existe entre ton travail et cette écriture là et qui serait bien que tu le fasses. Et puis alors ça trottait comme ça dans mon cerveau, et puis Frédéric, qui est un des deux interprètes, me glisse dans la main Nous campons sur les rives, que à ce moment-là je n'avais pas encore lu. Et avec Frédéric, ça fait des années qu'on s'est dit qu'on a un rendez-vous que nous devons faire autour d'une écriture. Et il me dit: tiens, voilà, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Mathieu Riboulet sur ce texte Nous campons sur les rives, ça pourrait être le sujet de notre rencontre. Et du coup, j'ai pas hésité, enfin il n'y a eu aucune hésitation, presque aucune pensée sur le fait de trouver que c'était là une évidence qu'il fallait faire entendre maintenant avec cet acteur avec qui j'avais très envie de travailler depuis moins une dizaine d'années, et que notre terrain commun pouvait être le texte de Mathieu Riboulet, ce texte-là en l'occurrence. Et puis après, le fait qu'il ne soit plus là et qu'on l'ait invité plusieurs fois, il devait revenir à Marseille en fait l'année de sa mort.
Quand vous dites à Marseille, c'est donc au Festival
Actoral. Oui, au Festival Actoral et à Montevideo, qui est le lieu, ce lieu atelier de résidence d'artistes que je dirige dans le sud. Ouais. Et ça devait être la quatrième fois, je crois, qu'il devait venir. Et il n'est pas venu. Et du coup, c'était, je crois j'ai pas beaucoup de mots à dire dessus, parce que je pense que cette chose-là, elle se fait par un grand silence en fait chez moi sur cette tentative, en tous les cas, de faire entendre son écriture au théâtre.
Et c'est toujours comme ça? C'est toujours comme ça que vous procédez? Il y a toujours un rapport de grand silence entre les textes
non,
que vous montez et vous?
Non, je crois pas. Je crois que c'est surtout avec Mathieu. Là, en fait, j'ai hormis le seul classique que j'ai monté qui était Hamlet, j'ai toujours travaillé avec des auteurs vivants. Il y a un autre auteur qui était Gombrowicz une fois. Hamlet et Gombrowicz, ce sont deux écrivains qui étaient morts.
Et sinon, Kane? Elle était vivante quand vous l'avez montée?
Alors Ken, j'ai connu. Alors c'est un peu différent, Sarah Ken, parce que j'ai connu son écriture du temps où elle vivait. J'ai décidé de monter ses textes. Elle était encore vivante, et puis chemin faisant, là aussi, elle a disparu. Et du coup, c'est vrai qu'on vous rapprochez Sarah Ken avec Mathieu Riboulet. C'est vrai que il y a à un moment donné quelque chose de l'appréhension de cette écriture-là qui touche à des domaines particuliers. Enfin, chez Sarah Ken, ça touche à des domaines des morts, et on peut dire quand même que chez Mathieu Riboulet, il y a beaucoup de... Enfin, le chemin du temps aussi qui se faisait que son écriture, dans le champ politique, dans ce qui se fait passer dans un certain nombre de pays, il faisait parler les morts. Et lui-même, dans ses chemins de Nous campons sur les rives, ou de son dernier roman qui vient de sortir, il parle de ça, de sa future disparition.
De sa future disparition, certes, et Nous campons sur les rives, c'est vraiment un texte qui se tient sur les ponts où au-dessus desquels ou en dessous desquels passent les fantômes, c'est très clair. Et en même temps, vous lui a collé un des textes qui est contenu dans Lisière du corps, et où il y a que des vivants.
Oui.
Mais en fait, vraiment que des corps ultra vivants.
Ouais, ouais. Mais en fait, il était important pour nous, à un moment donné, de faire entendre peut-être deux aspects de sa littérature. Je mettrais Nous campons sur les rives sur une chose peut-être plus politique, mais politique dans le sens presque existentiel. Et puis, effectivement, quelque chose de l'ordre de la vie, mais aussi de la vie, du multiple, des corps et des corps comme peut-être le disait-il lui-même, le corps est écriture. Et je crois que sa façon d'aborder le corps est de l'écrit. Et que d'un seul coup, quand il décrit tous ces moments-là de rencontre ou de vie ou de, il y a quelque chose d'une façon de, j'irais presque pétrifier l'écriture, ou au même sens, on pourrait dire pétrifier les corps, quelque chose qui
pétrir
sculpte.
Plutôt, non ?
Oui, pardon.
Les pétrir plutôt.
Oui, oui, oui. Et du coup, il y a ce lien-là qui pour moi était très important de faire entendre dans ces deux aspects de la littérature.
Oui, est-ce que c'est là que vos deux façons de travailler ou de penser du travail peuvent se rejoindre ? Parce que vous disiez, Hubert Collat, en fait, il y a plein d'amis qui me disaient depuis longtemps, ah tiens, peut-être qu'il y a des choses à faire entre les textes de Mathieu Riboulet et la manière dont vous travaillez. Est-ce que vous diriez que c'est ça ? Que, en fait, dans la manière dont on est, il y a de l'écriture, que dans l'écriture, il y a des manières dont on est, que, en fait, la littérature a beaucoup à voir avec nos corps. Est-ce que c'est, au fond, pas ça que vous travaillez depuis des années ? Sur les scènes, sur les plateaux, dans les ateliers ?
En fait, oui. Pour une grande partie, je crois que c'est ça. C'est vrai que les écritures que j'ai toujours montées, il y a un moment donné, quand je les parcours, je les lis, en fait, il y a toujours un corps qui apparaît. Et c'est toujours la présence, finalement, du corps de l'auteur que je sens. Chez Sarah Ken, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait à un moment donné, une forme de communauté possible de l'existence d'un corps quand je lisais, que ce soit chez moi tout seul par l'oralité ou d'un seul coup de façon fantomatique apparaissait. Un des premiers textes de Christine Angot que j'avais aussi monté avec d'ailleurs le Thierry Reynaud, c'était pareil en fait.
Quel un des comédiens qu'on peut donc voir dans Nous campons sur les rives.
Et il y avait vraiment quelque chose de l'écriture du corps. En fait, dans les premiers écrits, je trouve, de Christine Angot.
Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça ? Qu'il y a une chose qu'on dit beaucoup ici, par exemple, sur France Culture à la radio, quand on dit « j'écris avec mon corps », c'est l'écriture du corps. Alors, si on essaye d'être un peu plus précis sur ce qu'on dit quand on dit ça.
Je ne sais pas si... Alors, peut-être les auteurs disent « j'écris avec mon corps ». Moi, je ne dirais pas ça, en fait. J'ai plutôt... c'est plutôt un ricochet, en fait, en tant que lecteur que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'ai affaire à une présence. Et qui, d'un seul coup, fait résonner des présences qui sont en moi, et qu'à partir de là, il y a un corps qui se constitue. C'est à la fois le corps de l'auteur, mais c'est aussi le corps du lecteur. On pourrait même dire que, au niveau du théâtre, ça serait finalement le corps du spectateur et le corps de l'acteur qui se rencontrent dans une forme d'oralité et d'une spatialité de l'écriture.
Et c'est ça qui fait que, dans votre travail, et peut-être encore plus dans le travail que vous présentez là en ce moment autour de Riboulet, il y a quelque chose de très tangible. Juste avant qu'on commence l'émission, vous avez dit « oui, c'est de la littérature au théâtre ». Mais en fait, il y a quelque chose qui se passe qui est que d'un seul coup, c'est presque la littérature même, on dit le corps du texte.
Oui.
Hein, quand on dit même là, un corps de mail. Ouais. Et ben, c'est comme si, plus qu'autre chose, vous mettiez en scène le corps du texte.
Oui.
Comme un espace.
Oui.
Avec de la peau, du sang, du sperme, de la sueur, c'est le corps du texte.
Oui, enfin, j'essaye de faire ce travail-là avec les acteurs. Alors comment cette chose-là, elle se fait ? Il n'y a pas de recette. Il y a une question d'écoute extrêmement forte qui est à voir avec le comédien et comment, à un moment donné, les mots résonnent chez lui dans une non-connaissance presque de l'écriture. C'est-à-dire que il y a pas une volonté de sens, il y a une volonté d'apparition. Comme s'il y avait un partage extrêmement important de l'oralité. C'est-à-dire que finalement, quand les acteurs nous parlent, ils nous écoutent. Ils ne font pas simplement que nous dire, à un moment donné, comme une espèce de d'incarnation à distance des choses. C'est-à-dire que la perception du langage se fait par l'écoute du spectateur. Et que je crois que quand on lit un roman, quand on lit un texte, finalement, c'est ça aussi qui se passe. Et que c'était une façon de tenter de retraduire. Et c'est ce qui donne ces corps physiques, cette oralité vivante, je crois, à travers ce travail.
Donc vous dites, quand on lit un texte, le texte nous écoute.
Oui. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais après, il y a ça. Et puis, les plus belles littératures, par moments, c'est celle qui fait que mon corps s'évade. C'est-à-dire que quand on continue de lire, puis on se dit au bout d'un moment, mais je viens de lire 10 pages, Je ne les ai pas lus, je les ai lus, mais j'ai voyagé avec et il faut que je les reprenne pour me remettre dans un présent. Je suis parti ailleurs, comme dirait par moment Mathieu Riboulet dans Nous copons sur les rives. Et donc, il y a quelque chose de magnifique à l'intérieur de ça. C'est toujours comme si... mais c'est ce que existe dans Mathieu Riboulet quand on parle de politique. On dit qu'il ne fait pas discours du politique. Il écrit le politique en creux. C'est-à-dire qu'on peut lire Mathieu Riboulet dans ce qui n'est pas encore écrit et que le lecteur, le spectateur entend. À travers le, je dirais presque les mots entre, c'est souvent ça en fait qui est magnifique. Mais je crois que dans toute forme d'expression artistique il y a ça. Enfin, c'est jamais le ce que l'on voit, ce que l'on écoute, ce que l'on croit apercevoir qui existe, mais c'est ce qui déborde. C'est vraiment, c'est comme le langage à un moment donné. Vous tentez par les mots de dire des choses, mais c'est beaucoup plus physique que ça. Là aussi, on pourrait dire c'est du corps qui parle, c'est des sensations, c'est de l'émotion. Et je crois que ces écrivains-là, que ce soit Sarah Ken, Mathieu Riboulet et d'autres, c'est ça qu'on entend chez eux.
Alors, donc pour reprendre la manière dont vous nommez une des manifestations marseillaises dont vous êtes à l'origine, c'est acte oral.
Oui, oui, oui. Parce que enfin, le terme d'actoral, il est né aussi parce que, en fait, je suis allé pendant 2 ans en Bolivie travailler avec des jeunes écrivains boliviens où je faisais des ateliers d'écriture et des ateliers de théâtre. Et en fait, c'est eux qui disaient que la façon dont je travaillais, c'était un actoral. Et du coup, quand je suis revenu, je me suis dit, mais si on fait un temps sur les écritures à Marseille, appelons ça comme ça.
Va voir ailleurs si j'y suis. Ce que la langue formule là est prodigieux et la méthode imparable. Mais la logique sait l'être aussi. Et si l'enfant, à qui nous donnons ce conseil, lui-même d'emblée de plein pied, dans le registre des mots, qui est encore pour lui aussi celui des choses, revenait de sa quête en nous disant que, en effet, il nous a trouvés, et que nous sommes aussi ailleurs, alors... Où serions-nous ? Nous pensons être ici, mais rien ne prouve que l'enfant ment. Peut-être ne sommes-nous pas là où nous croyons être, mais ailleurs, et apparemment sans possibilité de penser cet ailleurs autrement que sous forme d'acte de foi, ni d'établir avec lui le moindre lien qui confirmerait notre présence au monde. Rien à regretter. Cependant, nous ne saurions être partout sans perdre tout à fait la tête. Je le crains. Sans entrer dans les arcanes de la prodigieuse théorie des cordes et sa tentative insensée, somptueuse, de théoriser, voire mathématiser l'état vibratoire du monde dans une sorte d'élan poétique inclassable, me savoir possiblement, et ici et ailleurs, m'enchante, car il m'est plus facile de m'imaginer dans d'autres lieux que les miens, que dans d'autres vies que les miennes. Ainsi, de nouveau, je fais tenir le monde dans la lumière, le vent, les pierres, le sable et les odeurs d'ici, de l'ici où je suis, de l'ici où nous sommes.
Hubert Collat, on entend Romain de Bec-de-Lièvre lire un extrait de « Nous campons sur les rives ». Vous évoquiez tout à l'heure ce qui tremble dans ce texte-là, peut-être la manière dont il annonce sa propre mort, sa future disparition, où est-ce qu'on est, c'est quoi exactement l'absolu ailleurs. Mais en écoutant Romain, je me suis souvenu de ma surprise au Théâtre des Amandiers à Nanterre, où je ne savais pas du tout ce que j'allais voir, venant comme ça sur la foi de votre nom et du nom de Riboulet. Et je me souviens que quand j'ai entendu ça, ce lieu où nous sommes, je me suis dit, tiens, ça parle aussi de cet endroit singulier qui est le théâtre, qui permet cette surprise-là, qui fait que je me fais attraper par un texte que par ailleurs je connais, qui fait que d'un seul coup, je suis avec des gens d'une autre manière qu'il y a 3 secondes dans le hall du théâtre. Vraiment, j'avais l'impression que ça soulignait ma chance à moi d'être là.
Je sais pas vraiment une question, mais si je réponds à ça, oui, il y a quelque chose comme ça qui nous a traversé avec Frédéric et Thierry, qui effectivement à un moment donné cette écriture, cette oralité là, ces mots là sur l'ici et le maintenant et l'ailleurs était effectivement une forme de description d'une représentation théâtrale.
Ah ouais.
et que c'était très flagrant dès les 3-4 premières lignes du début, où je demandais à Frédéric de s'approcher très près des spectateurs, et il y a une forme sonore qui change, enfin son corps change, le son change, et puis d'un seul coup il dit vous êtes ici. Et c'est du direct, absolument du direct. Et là ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'écoute, c'est-à-dire que ceci est possible que si l'acteur vraiment profondément écoute ce temps que vous avez eu d'écouter là où vous étiez. Et ça, c'était possible à ce moment-là. Et après, on a essayé de... Du coup, cette piste, on l'a élargie au maximum. C'est-à-dire configurer le planétarium avec l'accord de Philippe Ken de façon à lui rendre son architecture aussi. C'est-à-dire de... En fait, souvent, cet espace-là était souvent reconfiguré en forme théâtrale. Et ce qu'on a essayé, c'est de le désosser. En fait, d'enlever tout ce qui était un peu trop rapport au théâtre, même si on a regardé ce rapport frontal, mais avec le planétarium qui est une courbe, on a essayé de faire en sorte que l'endroit du spectateur et que l'endroit où des acteurs soient finalement dans un seul et unique lieu, dans une vraie proximité. Et du coup, jouer enfin comme ça sur les apparitions même de ce que représentait l'architecture de cet espace. Voir d'en créer une zone presque fantomatique aussi, où le lointain du plateau, finalement, où on ne sait pas jusqu'où il arrive.
Fantomatique, mais qui ne fait pas peur. Là aussi, comme ça, en essayant de me souvenir de cette représentation, je me suis dit, tiens, vraiment... Les comédiens n'ont pas du tout peur de leur texte, pas du tout peur d'être là, vraiment pas du tout peur de nous. Enfin, je sais pas comment dire, vous voyez ce que je veux dire? C'était un endroit très très pacifié. Alors que, il peut y avoir une tension au théâtre. Et je dis pas que c'est sans tension, mais il y avait beaucoup de paix.
Oui. Oui, mais en fait, on a, enfin, le climat des répétitions, le climat même du lieu, on a eu la chance de pouvoir y être assez longtemps, par période intermittente, cela dit, parce que c'est deux acteurs qui travaillent finalement beaucoup, et du coup, à chaque fois qu'on a pu se poser dans le lieu, il y avait, avec l'équipe technique, avec les gens qui nous entouraient, on a très vite réussi à poser l'espace, c'est-à-dire à le protéger. Et du coup, ça a été une vraie complicité non dite pratiquement avec les gens qui travaillaient avec moi. Et du coup, ça nous a tous rapprochés. Ça a donné un climat, je crois, pour Frédéric et Thierry, quelque chose de rassurant.
Parce qu'il faut y aller quand même. Hein.
Mais moi, je pense que le texte
a un moment. C'est une sacrée partition. Hein.
Mais je leur ai dit, ça leur appartenait. Enfin. On va dire, d'une manière générale, ça appartient toujours à l'acteur à un moment donné. Mais plus encore. Là-dessus. Je disais, de toute manière, ce texte-là, on ne peut le faire entendre que si profondément, chez vous, pour vous, politiquement, poétiquement, dans le lien aux autres, c'est de vous dont vous parlez. Et que ce lien-là, chez Mathieu Riboulet, il est possible. Son écriture nous donne une interprétation possible de la rencontre avec l'autre et de la confrontation politique.
Pourquoi les tables? Des grosses tables, massives en bois.
En fait, j'avais ramené de Marseille deux autres tables où on avait fait une lecture des textes de Mathieu Riboulet il y a plusieurs mois avant, et je pensais que ces deux tables allaient fonctionner. Et puis dans cet espace-là, c'était un ratage total. Quand elles sont arrivées, elles marchaient pas. Et du coup, je me suis baladé je me suis pas beaucoup baladé. Je veux dire, dans l'endroit où on prend le café à Nanterre, il y avait cette table absolument massive qui était là. Et en même temps, du coup, pour moi, elle résonnait physiquement. C'est-à-dire que c'était pas une table pour une table. Elle est corps, cette table. Elles font corps et elles font corps aussi comme un corps social. C'est les trois mêmes, elles sont identiques. Donc, elles sont un lieu partagée. Et elles évoquent, elles peuvent évoquer des, enfin, des cantines, elles peuvent évoquer des classes, elles peuvent évoquer l'endroit où nous prenons simplement la parole. Et du coup, j'ai trouvé que c'était simplement juste. Elles ont une couleur aussi très particulière. Elles n'ont pas une couleur de bois neutre. Il y a une espèce d'acajou dedans sur lequel je me suis amusé avec les éclairages.
Quand je dis aussi un espace pacifié, c'est un espace où on a de la place, nous, pour dire ok, qu'est-ce que j'en pense? Alors, est-ce que moi j'ai envie d'être plutôt ici? J'ai envie d'être ailleurs? Je trouve désirable d'être partout? Je trouve dangereux de vouloir être partout? Comment je fais tenir le réel dans ma tête? Quand je dis ça nous laisse de la place, c'est-à-dire que c'est presque dans les yeux de vos comédiens, une sorte d'invitation à dire... Pensons tous ensemble, quoi. Pour revenir à l'espèce d'architecture dont vous parliez, Hubert Collat, prenons le temps, je vais laisser de l'espace entre les virgules, il y en a plein chez Riboulet, ça tombe bien, pensons tous ensemble.
Oui, mais en fait, là aussi, ça, je crois que ça, c'est au cours des répétitions que ce temps-là est apparu. Au début, en fait, les deux acteurs étaient beaucoup plus rapides que ça, et je leur ai demandé de prendre le temps à l'intérieur. Enfin, pas simplement de respecter une grammaire de Mathieu, mais de respirer vraiment profondément le temps partagé. C'est-à-dire qu'encore une fois, sans l'écoute possible de celui à qui l'on parle, et d'avoir sa propre pensée en résonance avec celui qui l'écoute, quelque chose ne pouvait pas se faire. Je voyais bien qu'à un moment, il y avait des enchaînements de phrases, mais je me dis, mais en fait, tu ne peux pas comprendre... ce que tu as fait entendre si tu laisses pas le temps. Enfin, presque comme un mouvement fantomatique dans l'espace. Moi, à chaque fois, souvent, des fois, je dis avec les acteurs, mais vous prenez la parole dans un espace donné. Vous parlez ici d'une certaine façon, mais on parlerait ailleurs ou encore avec une autre personne, on ne parlerait pas de la même façon. Donc il faut, si on veut le partager avec le public, cette oralité, ce temps-là, il faut absolument être conscient de l'espace où nous prenons la parole. C'est-à-dire, en fait, c'est un écho. Et le corps physique, c'est la même chose. Enfin, il s'adresse, il ne bouge que dans un espace donné. S'il ne fait pas attention, en fait, il est parasité. C'est-à-dire qu'il n'existe pas réellement dans l'endroit où il est en train de vivre une expression artistique, en tout cas son art.
Le théâtre ouvre des territoires pas encore connus. Et je pense que cette solitude dont il parle, c'est ça. C'est-à-dire comment ça résonne une chose comme celle-là, si quelqu'un la prend, parce qu'on peut aussi la rejeter et très fortement. Comment ça résonne et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait cet acte? Cet acte qui est un acte qui est jamais répété, qui est comme la naissance ou la mort. Qu'est-ce que ça fait quand ça résonne en soi? Voilà, ça fait peur, ça fait quoi? Même si ça fait rire, par exemple, quelquefois, il y avait des gens là à la reprise, ça faisait rire. Moi, je trouve pas ça. Sur le coup, c'est pas agréable, mais quand j'y pense. Le rire, c'est bien quelque chose qui amène, enfin, qui crée un décalage, qui montre un déplacement. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on se défend avec le rire. Le théâtre doit nous provoquer. Alors, on est bien, on se sent mal, on rit à une tragédie, vous voyez? Ça crée, ça agit sur, ça modifie, ça fait quelque chose, ça nous fait quelque chose. Et c'est ça la vie nouvelle.
Bah oui, c'est ça la vie nouvelle, c'est ce qu'on entend dans la voix de Valérie Dréville. Elle était venue ici à ce micro en mai 2018, totalement en écho à ce que vous disiez précédemment, Hubert Collat. Mais j'aime bien cette dernière phrase là, quand elle dit c'est ça la vie nouvelle, c'est que il faut accepter que le théâtre fasse quelque chose concrètement, qu'il ouvre des territoires, dit-elle, et qu'on accepte de s'y risquer, d'être bousculé par... Et peut-être comme ça, là, au passage, en 2020, ça mériterait qu'on s'attarde là-dessus, parce que finalement, que le théâtre fasse quelque chose à la vie des gens, que ça ouvre des territoires possibles dans la tête des gens, dans la pensée des gens, ça va à l'encontre de le théâtre comme supplément d'âme, comme petit, comme ça, divertissement possible, éventuellement, bourgeois.
Oui, bah, vous, vous touchez ce qui me paraît effectivement essentiel par rapport au théâtre au jour d'aujourd'hui, par rapport à une idée qu'on entend, on n'arrête pas d'entendre, et puis ça fait quand même quelques années qu'on essaye de nous dire qu'il faut aller vers une plus grande commercialisation du théâtre et que ça soit accessible à tout le monde, comme s'il y avait
à des fins populaires.
À des fins populaires, on dit, de façon à ce qu'il y ait le plus grand nombre de gens qui puissent s'y reconnaître, on pourrait dire sans aucun effort finalement d'écoute et de perception de ce qui est en train de se passer au moment où ils le vivent. Donc à un moment donné, c'est de la consommation. Mais la société dans laquelle on est nous tente de nous broyer l'esprit avec cet esprit-là global. Surtout l'art, sur la culture, sur la société. Enfin, et donc c'est vrai que cet espace-là, qu'elle utilise, qui est le mot de résonance, et il est capital. En fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une soif de curiosité qu'il faut ramener au théâtre, je crois. C'est-à-dire accepter de voir ce que l'on ne connaît pas, que l'on n'a peut-être jamais entendu comme ça, et puis accepter aussi qu'on ne comprenne pas ce que l'on voit. Enfin, aujourd'hui, il faut comprendre tout, et il faut comprendre même avant même de savoir qu'on a compris. Donc, alors que je pense que c'est, si on veut ouvrir notre esprit, et si on veut être finalement chercheur à travers soi-même et à travers les autres, il faut entendre ce qu'on ne comprend pas, et partir avec ce que l'on n'a pas encore compris. Et je pense que c'est des zones comme celle-ci qu'il faut toucher, et je pense qu'on y touche un petit peu avec Mathieu Riboulet, on y a touché avec Sarah Kane et avec d'autres auteurs, avec Annie Zadek aussi, avec ce texte qui s'appelle Nécessaire et urgent, et je pense que c'est important. Enfin, pour moi, c'est ce qui donne encore une vraie légitimité au théâtre d'exister en faisant une chose comme ça.
Et c'est pas grave si c'est peu. Je veux dire, quand je vous écoute, je me dis, mais oui, merveilleux. Par ailleurs, j'en ai fait, moi, personnellement, l'expérience, cette fois-là, et puis d'autres fois ailleurs. Mais bon, on annonce là 4 dates à Nanterre, Hubert Collin.
Oui, je sais bien.
Et ça reste Nanterre au Théâtre des Amantiers. Donc je me dis, ah tiens, c'est marrant quand même, cette vie nouvelle qui est promise dans la voix si percutante, si ouverte de Valérie Dréville. Alors, on la réserve à qui?
Mais on la réserve... En fait, on est dans une société qui prône l'immédiateté constante, c'est-à-dire qu'on ne vit le rapport aux choses que maintenant. Mais ça existe dans le temps, nous existons dans un temps donné dont on ne connaît pas la fin, et que cette fin, elle est encore inconnue même quand nous sommes morts, donc à un moment donné, il y a quelque chose qui se partage, mais au même titre que nous sommes habités par nos fantômes, par nos ancêtres. Donc nous transmettons des choses dont on n'a pas exactement la conscience totale d'où elles sont apparues, d'où elles viennent pour être transmises. L'écriture, elle fabrique ça, l'écriture, elle fabrique des corps qui ont été traversés, des corps hérités, enfin on hérite de corps quand on est vivant, et que c'est ça l'écrit, c'est ça dont on parle, c'est ça où à un moment donné on a la capacité de dire à un moment donné ceci, et après le public, bah s'il met 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans avant d'entendre, avant de comprendre, avant peut-être qu'on accepte qu'un certain type de théâtre peut-être deviendra populaire dans 20 ans, il faut bien qu'il existe et qu'il soit non populaire pour que sa création, sa légitimité, sa nécessité chez les acteurs et chez les écrivains, chez les metteurs en scène et chez tous les artistes qui participent et qui concourent à faire du théâtre, effectivement, nous soyons peut-être que 10, que 15, que 100 dans une salle, oui, et alors ?
Ça infuse.
Oui, ça infuse. Et puis, le théâtre n'est pas simplement le moment où vous le voyez ou le moment où vous l'entendez. C'est le moment où ce qu'on n'a pas vu, ce que l'on a raté, ce qu'on a entendu dire finalement.
Ce qu'on ne sait pas qu'on a vu aussi. Moi, je trouve ça très intéressant de sentir que on est agi par des trucs qu'on n'est même pas en mesure de décrire. Qui viennent peut-être d'une vieille lecture ou même d'un récit que quelqu'un vous a fait de sa propre lecture et que vous n'avez pas fait.
Et du coup, on a une part belle dans notre imagination et dans notre existence à imaginer ce qu'on n'a pas vu dans le théâtre. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens et qui ne verront pas Nous campons sur les rives. Ils ne le verront pas, mais ils le penseront. Ils auront déjà une part de la représentation qui sont les acteurs, qui sont Mathieu Riboulet, moi, et tous ceux qui ont concouru à cet objet-là. Et après, je pense que même dans Nanterre, c'était très beau parce que par moments, les personnes qui y travaillent venaient voir dans le planétarium comment était le planétarium, comment il avait été transformé, qu'est-ce qui se passait, enfin, etc., etc. Comment étaient aussi ces grandes tables qui existaient à Nanterre, comment elles étaient là, qui étaient sur les tables de convivialité quand même, qui étaient les tables du café, du ceci, cela. Donc, c'était leur table. Donc, en même temps, ce lieu, il leur appartient. Et puis, il appartient à Nanterre, qui est dans une situation, en plus, comme vous le savez, pas facile, où il y a un combat à Nanterre à mener. Il y a un combat à mener, sur l'idée de la représentation artistique que Philippe Ken a proposé dans ce lieu-là, que certains disent qu'il est pas très fréquenté. Et pourtant, quand vous y allez, vous voyez bien qu'il y a un public presque, on pourrait dire nouveau, hein, qui est là. Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui sont présents. Et c'est un théâtre qui fait une résonance, pas simplement à Nanterre, mais sur la totalité du territoire français. À un moment donné, il y a l'écho d'un endroit phare où il s'y passe des choses qu'on n'a pas communément l'habitude de voir. C'est essentiel. Et on a maintenant un certain nombre de personnes au sein de Nanterre qui se battent pour l'existence de ce théâtre, de comment il va le devenir, et pas une usine à gaz, mais quelque chose qui est de l'ordre de la création et de l'art. Et ils s'y battent, et ça, c'est fondamental.
Qu'est-ce qui vous a, vous, ouvert la porte à ces endroits-là de représentation, de théâtre, de lecture? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui, Hubert Collat, parmi les personnes qui vivent ces vies nouvelles ouvertes par le théâtre que décrivait Valérie Dréville?
Je pense que, on va dire plusieurs choses, peut-être un handicap, quelque chose qui me donnait aucune légitimité, étant petit, à l'écriture, à une peur effroyable de l'écrit. Et puis, chemin faisant, plein de micro-rendez-vous ont existé. Un jour, un professeur nous a demandé dans un cours d'art dramatique d'écrire un poème. Et ça a été le moment le plus, on va dire, le plus merveilleux, le plus atroce de ma jeunesse d'acteur. Et tout le monde l'a lu, son poème, sauf moi. J'étais incapable. J'ai complètement fondu, disparu dans la salle, et j'ai pas lu ce texte-là. Et il a existé. Ce texte, il avait été écrit, et c'était important. Et je pense que après des rencontres, des textes lus, des écrivains que je croisais, et puis voilà, j'ai commencé à écrire. Et c'est en lisant, en écrivant, en rencontrant des écrivains, des auteurs, des poètes sonores, que quelque chose est devenu nécessaire. Et puis après, j'ai été aussi élève pendant un an quand même chez un des grands maîtres du théâtre français, qui était Claude Régis. J'ai été auditeur dans sa classe au conservatoire pendant un an, et c'est sûr que quelque chose de cette nature-là m'a fait entendre autrement, sans doute, l'écriture. Ou en tous les cas, à réveiller ce qui existait déjà en moi de l'écrit. On s'est un peu disputé d'ailleurs avec Claude Régis après sur les droits de 448. Et je les avais avant lui, mais les appliquais au son poteau, comme on dit. Et puis avec cette phrase un peu laconique en disant « t'avais qu'à te débrouiller autrement ».
Dans une lettre qui vous adresse.
Oui, et c'était bon, voilà. Après, on l'a quand même fait, ce 448, donc on l'a fait à Marseille en catimini, mais il a existé de la même façon, et que c'était pour moi important. Là aussi, c'était son dernier texte à Sarah Kane. C'était important de l'entendre, de vivre et de voir comment ces mots résonnaient.
On écoute un extrait de Lisière du corps avec Thierry Reynaud.
Nous sommes multiples. Aucun de nous ne poursuit tout à fait les mêmes buts. Nous sommes d'accord sur la finalité, sortir du corps. Le survoler comme en mourant, tant le plaisir nous aura balayé. Ou nous y ensevelir. Au point que nous n'avons plus rien pour nous y raccrocher. Mais nous varions infiniment les moyens. Zoltán, le petit costaud, natif de Budapest. Demeurant à Brisbane, de passage à Cologne, charme de la mondialisation, avec lequel j'avais scellé presque tout de suite en arrivant une sorte d'accord de baise qui nous tiendrait l'après-midi entière, Zoltán et moi n'avons pas manqué. Le beau gars. Presque à l'anguille sur le banc à l'étage.
France Culture,
par les temps qui courent, Marie Richeux avec Hubert Collat.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Un grand calme, une tonalité égale, lisse, dans laquelle doucement la pensée reprend cours, s'ébroue, mesure le gouffre, constate qu'on est vivant, mais qu'en nous, quelque chose, ce jour-là, est passé, comme un courant d'orage dont la charge explosive a disjoint, une à une, les fibres de nos muscles, percé l'enveloppe des nerfs, fait tressaillir nos os, puis laisser retomber sur nos 30 tensions les ténèbres apaisantes de l'informulé. Nous sommes multiples, certes, mais tenus à un corps.
You're going to reap just what you sow.
Vous voyez comme les choses, elles se transmettent sans qu'on sache qu'elles se transmettent, comme ça. Parce que Perfect Day, on y a pensé comme une évidence, et c'est pour vous une chanson qui a une histoire. Laquelle ?
Celle d'avoir été la chanson, la musique qu'on a fait entendre dans Purifié de Sarah-Ken, il y a bientôt 20 ans déjà, quand on a monté ce texte-là, et ça nous a semblé là aussi une évidence de faire entendre cette voix, cette musique, Perfect Day. Dans l'écriture de Sarah-Ken.
Moi, j'ai pensé à Lou Reed. On a pensé à Lou Reed parce que, à la fin de ce passage de lisière du corps, à la fin que 30 corps d'hommes se soient mélangés dans le sexe, dans le désir, dans le silence, dans les baisers, dans l'étreinte, il y a une sorte de calme. Ouais. Qui arrive et d'où pourrait surgir It's Such a Perfect Day. Parce qu'il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à faire, comme ça, c'est juste... je sais pas, c'est juste quoi ?
Une sortie du corps, quelque chose comme ça. Une forme de petite mort, de sensation, des moments où le corps est dépassé par lui-même, par toutes ses fonctions. Et c'est à la fois dans la sexualité, aussi dans l'art, dans des grands moments de vie que nous connaissons tous finalement dans les chemins qu'on fait. Et à un moment donné, il y a une chose comme ça, de cette nécessité du grand silence qui arrive et qui fait que ça nous pose. On mesure là, je crois aussi, ce que c'est que les sensations liées au monde, aux êtres et à la nature.
Ce qui fait aussi résonner les deux choix de texte que vous décidez de monter ensemble, et on peut vraiment entendre ce verbe-là de deux manières, Hubert Collat, puisqu'il y a monter, évidemment, mettre en scène, mais il y a aussi monter, emprunté au montage du cinéma, de mettre côte à côte. C'est une surprise hein, quand arrive la deuxième partie, d'une certaine manière, lisière du corps, il y a de la musique, ça danse, le deuxième comédien n'a pas du tout le même corps, ni la même diction, ni le même rapport à son texte que le premier. Et pourtant, évidemment, tout dialogue, quoi. Tout vient résonner avec le « nous sommes ici » du départ et la fin d'une espèce de baise internationale dans un sauna gay de Cologne. Il y a un « nous sommes ici » qui prend d'autres valeurs. Comment vous avez décidé de les mettre côte à côte, ces textes-là ?
En fait, c'est aussi des hasards de vie qui ne sont jamais des hasards, mais des moments partagés avec les acteurs. C'est-à-dire qu'on a cherché assez longtemps quel était le deuxième texte qui pourrait ou précéder ou suivre Nous campons sur les rives. Et alors du coup, on a relu Mathieu Riboulet. Alors c'est vrai qu'il était impensable de prendre un roman dans sa totalité, et puis nous ne pouvions pas non plus couper par extrait des morceaux, faire un montage. Donc c'est vrai que c'est dans Lisière du corps que d'un seul coup je me suis dit il y a 6 portraits d'hommes, et donc ce sont des formes de récits courts, et je me suis dit c'était à l'intérieur de ce roman-là qu'on pouvait peut-être puiser quelque chose. Donc avec Thierry et Fred, on a lu et relu seul et ensemble tous ces textes-là, et il nous a semblé que celui-ci était celui qui, pour l'écriture enfin à l'intérieur de l'écriture de Mathieu, en résonance avec le premier, nous semblait le plus juste, sans qu'on s'en donne trop d'explications. Mais il me semblait que son écriture des corps, son écriture du désir, à un moment donné, exprimait aussi dans ce texte-là ce qui est de l'ordre du dépassement. C'est-à-dire que c'est pas le sexe pour le sexe, c'est qu'est-ce que cette sexualité-là, ces moments-là, ces rencontres fusionnelles ou non fusionnelles des corps provoquent à l'intérieur de nous-mêmes comme une forme de mort à soi pour créer plus d'existence. Et du coup, le montage, le collage de ces deux textes-là, pour moi, provoquait cette écoute possible de la littérature de Mathieu.
Est-ce que ce sont des choses que vous continuez d'entendre, Hubert Collat ? Est-ce que les représentations se succédant, d'un seul coup, il y a d'autres choses, d'autres sens possibles qui naissent ? Tout à l'heure, vous disiez, dans mon travail, il n'y a pas de volonté de sens, il y a une volonté d'apparition. Est-ce qu'il y a des choses qui continuent d'apparaître ?
Oui, enfin, la façon dont on travaille, dont on a travaillé avec Frédéric et Thierry, je leur dis bien que de toute manière, il n'y a pas, enfin, c'est une porte ouverte de dire ça au théâtre. On dit, il n'y a jamais une représentation pareille, mais c'est vrai, on va dire qu'il n'y a jamais une écoute pareille du public. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui viennent, ce ne sont pas nos mêmes vies qui viennent, nous, acteurs ou metteurs en scène, dans ce lieu-là, et qu'il faut réécouter. Je leur demande jamais de reproduire ce qui s'est passé, et du coup, de laisser le texte comme une matière poreuse, comme ça, qui fait apparaître d'autres choses. Donc, du coup, on sent qu'à l'intérieur de ce labyrinthe de l'écriture, ce labyrinthe de la vie, apparaissent d'autres moments qu'on n'a pas entendus, qu'on n'avait pas entendus jusqu'à présent. Et tous les jours, c'est un peu ça. Tous les jours, on y découvre des choses. Et pour moi, c'est important que ça soit ça.
Il faut qu'il y ait plus de représentations.
On comprend qu'un monde social émerge de toutes ces questions autour du désir.
I cannot gain recognition for my desire.
Si je ne connais pas mon désir, je ne peux pas trouver de reconnaissance à travers l'autre et par l'autre.
Of course, this became for me a different kind of question when I started to work in the area of queer theory.
S'est posé pour moi un peu différemment quand j'ai commencé à travailler dans le domaine des études queer.
That emerged from the
En effet, une des principales revendications de ce mouvement, c'était justement de reconnaître mon désir, que mon désir soit reconnu, qu'on m'autorise à en faire un langage de ce désir, qu'il soit publiquement reconnu, même si mon désir ne se conformait pas à l'hétéronormativité.
And so I suppose that I have thought that even the most personal questions we have, what is it I wish, what
même les questions les plus intimes, les plus personnelles, ce que l'on souhaite, eh bien tout cela dépend, repose sur l'existence d'un langage ou peut-être un discours au sein duquel le désir peut vivre et s'épanouir. Je suis persuadée que les gens souffrent, ça amène une souffrance quand on ne peut pas traduire son désir dans un langage qui soit reconnu par nous. Et par ailleurs, j'aimerais ajouter que parfois, le langage qui existe et qui nous permet de connaître notre désir finit par capturer ce désir.
C'est la voix de Judith Butler, ici traduite par Eve Ders sur France Culture en 2018 dans l'émission Matière à penser, Hubert Collat. Cette espèce de conjugaison comme ça que développe la penseuse américaine entre à la fois l'existence d'un désir, en l'occurrence homosexuel, la reconnaissance de ce désir-là, la reconnaissance et l'existence d'un langage pour dire ce désir-là, et l'espèce de boucle et d'aller-retour qui serait parce qu'il y a un langage pour dire mon désir, alors ça nourrit aussi mon désir et ça le rend possible et ça rend possible l'existence d'un monde social autour de ce désir-là. Dans le texte de Mathieu Riboulet, on est en 2015. Quand ça apparaît, j'ai l'impression que c'est comme si la question était réglée. C'est comme s'il y avait un langage qui nous faisait la preuve qu'il y a un langage pour faire exister ce désir homosexuel dans un sauna gay à Cologne et que ça existe, quoi, ça explose. C'est là. Que c'est pas un problème.
Oui, c'est effectivement enfin, dans le travail, je me suis posé la question, moi, de ça. Si on pouvait, s'il était possible aujourd'hui, de faire entendre ce texte-là.
Ah ouais?
Ouais. Et jusqu'à la première, enfin, je ne savais pas, en fait, si ce texte pouvait parvenir. Et pas simplement parvenir sur une problématique du désir, ou de l'homosexualité, parce que, encore une fois, je crois que c'est un témoignage qui parle du corps unique, multiple et unique que l'on a tous. C'est-à-dire que le champ de la différence, il doit s'exprimer à travers la problématique de l'homosexualité, de la différence du genre, etc., etc. Mais pas que. En réalité, il est multiple. Et ce que l'on entend peut-être enfin aujourd'hui, c'est de dire que effectivement, dans le monde entier, nous sommes tous multiples et uniques, et que c'est important que une société le fasse entendre au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les zones non révélées de nous-mêmes puissent enfin exister et se faire entendre pour nous et trouver le langage pour les autres.
Quelles que soient nos sexualités.
Quelles que soient, mais ça dépasse le champ de la sexualité. Je dirais, c'est bien évidemment, on pourrait dire que c'est par la sexualité que l'expression, parce que c'est fondamental, enfin, que ça nous habite tous les jours et que cette reconnaissance-là, elle doit être vivante, elle doit être entendue, elle doit être vue, mais c'est aussi la couleur, enfin, c'est aussi les différences raciales. Et à un moment donné, tout ceci doit être entendu. C'est pas un hasard si les luttes des Noirs retrouvaient les luttes d'homosexualité, enfin, etc. On est dans une époque où, en même temps, y a un retour d'une certaine forme de virulence à l'égard des différences, et en même temps, un beaucoup plus grand entendement possible pour la population d'accepter ce langage-là, cette forme-là, cette existence-là.
Vous dites jusqu'à la première, et moi, le témoignage de spectatrice que je fais, c'est... pour moi, c'est la démonstration. On a commencé Hubert Collat sur ce que peut la littérature, ce que ça fait la littérature, ce que ça fait que d'être sur scène et de dire des textes. Et pour moi, il y a une forme de démonstration qui est la littérature, elle peut dire, en passant par le récit d'une sexualité en particulier, que la multiplicité des directions vers lesquelles nous mènent nos désirs, qui que nous soyons, et quels que soient nos choix sexuels, est quelque chose qui nous concerne tous. C'est-à-dire que comme si, par la force du texte, par la force de l'écriture, par la force de la précision d'interprétation des deux comédiens, on arrive à ça. Suis-je claire ?
Je crois. Mais
c'est-à-dire que c'est plus une question, que c'est pas un problème, qu'on n'est pas en train de se dire ah là là, je suis en train d'écouter le récit d'un dimanche dans un sauna gay à Cologne, croustillant. Pas du tout, quoi.
Oui, oui, ça pouvait avoir ce, ça, enfin, il pouvait y avoir ce côté-là.
Non, mais ça se passe pas.
Ça se passe pas. Non, ça se passe pas. Et on le constatait nous-mêmes en l'entendant en circuit fermé au début, par aussi, je crois, c'est une chose qui passe par l'écriture, mais qui passe aussi par l'acteur. Enfin, c'est aussi la distance et la rencontre que cet acteur met dans cet écrit-là. Et puis, tout à l'heure, je le disais en antenne, mais il y a eu chez Thierry, au cours des répétitions, une jubilation incroyable. Il riait beaucoup, et c'était très communicatif, et que il fallait aller au bout du rire à l'intérieur de l'oralité dans lequel il se trouvait dans les répétitions pour que ça habite ce texte-là. Parce que à un moment donné, le dépassement de soi, la reconnaissance du dépassement de soi qui est ni plus ni moins que la possibilité de notre existence, multiple et quelle qu'elle soit, elle libère ce rire, et qu'il fallait que ce rire soit là de façon à ce que il soit communicatif au public, et que l'existence future de ceux qui peuvent entendre ça et qui ont une résonance par rapport à leur propre existence parte avec. Et que je trouve que c'est ce que nous donnent magnifiquement ces deux acteurs.
Alors on part avec quoi ?
Alors, je pense que ça serait dommage de dire avec quoi on part. Il vaudrait mieux que chacun...
Le programme des courses,
oui,
la liste.
Que d'un seul coup, on retourne vers le champ, et c'est ceci que vous allez voir absolument. Je pense que c'est justement multiple et unique pour que chacun parte avec ce dont il a envie.
Je crois que
ça ébranle un peu quelques personnes aussi. Enfin, il y a des gens qui sont extrêmement chaleureux après la présentation, et puis d'autres qui sont mutiques. Qui sont sans doute troublés. J'attendrai quelque temps peut-être pour les que j'en connais certains, pour les re-rencontrer, pour savoir comment ce texte a sans doute troublé quelques personnes. À quel endroit ?
Nous campons sur les rives, c'est donc du 6 au 9 février au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Ensuite, ça pourra être vu au Théâtre National de la Criée à Marseille, ainsi que à Montréal et à Ottawa cet automne. Merci beaucoup. Hubert Collin, c'est aussi le moment de dire que les textes de Mathieu Riboulet sont parus chez Verdi. À la prise de son ce soir, c'était Jean-Louis Deloncle. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Julie Ascal. C'est aussi une page sur franceculture.fr, la page de Par les temps qui courent. Il y a une petite enveloppe pour nous écrire, si vous voulez. Et un podcast via l'application Radio France. Dans un instant, 22h, et c'est le journal sur France Culture. Très belle soirée.